Père Philippe, métaphysique à Fribourg, le 1er février 83, troisième cours.
Est-ce qu'il y a des questions? Normalement, ça devrait être « être ». Mais le mari va dire « exister ». Je sais très bien que certains termes ne sont pas salutifs, mais je crois que vous aimez être « exister ». Pas l'existence, mais l'exister. Regardez la fin. Le tour est là. Alors, régulièrement, ça devrait être « l'être ». Mais l'être est devenu tellement « être » dans tous les sens, il a perdu sa noblesse. Donc, ayant perdu sa noblesse, on me signifie quelque chose d'autre. Mais c'est régulièrement, c'est l'être. Alors, moi, je crois qu'on peut mettre l'exister. Je sais que Favreau n'est pas ça.
Exister, c'est parce que même que tout le monde existant.
Ah oui, là vous touchez un problème très très important, très délicat. C'est que dans le jugement d'existence, j'affirme cette réalité existe, c'est le to-oti. Tandis que dans l'exister, acte, c'est autre chose. C'est pas le même. Alors vous voyez ça, le problème philosophique et critique, là, ça va être critique. On dit ceci est. Et puis, laissez. Bon, ceci est, ceci existe. C'est la même chose. Hein? Quand on dit ceci est, ceci existe, peut-être que dans votre sensibilité métaphysique, vous sentez autre chose, mais c'est la même chose. Hein? Donc, ceci est, ceci existe. Et quand vous dites l'exister, en tant que mode de l'acte, en tant que premier mode de l'acte, alors vous voyez bien que la signification de est et la signification de exister n'est pas la même. Alors est-ce qu'on peut préciser? Quand vous dites ceci existe, ceci est. Vous êtes en face du fait d'exister. Le fait d'exister, le to oti d'Aristote. Le fait d'exister. Donc, autrement dit, vous constatez, vous touchez que dans la réalité, il y a une réalité autre que vous. Ceci est. Comme quand vous dites « j'existe ». Je suis. Quand vous dites je suis, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que votre existence est autre chose que votre amour et que votre connaissance. Que votre existence est autre chose que votre vie. Quand je dis j'existe, je suis. Donc le fait d'exister, que vous constatez. Tandis qu'au contraire, quand vous mettez l'essai d'exister comme premier mode de l'acte, alors à ce moment-là, vous regardez au contraire le point de vue de l'acte, selon sa manière première d'être. Donc vous regardez le point de vue de l'acte, c'est donc le point de vue ultime. Il n'y a plus de place pour vous. Vous regardez donc le point de vue de l'acte, la signification ultime de ce qui est. C'est la signification ultime de ce qui est. Donc, c'est plutôt le fait d'exister qui est l'autre. Tandis que là, vous regardez la signification ultime de ce qui est. De ce qui est, par le fait même, séparé de tous les autres. Le fait même qu'il existe. Séparé de tous les autres. C'est la signification ultime de ce qui est. On ne peut pas aller au-delà. Tandis que le fait d'exister, le fait d'exister, c'est nous-mêmes, en quelque sorte. Hein. C'est nous-mêmes. Tandis qu'au contraire, le premier mode de l'art, ce n'est pas du tout nous-mêmes. Hein. C'est au contraire quelque chose que vous saisissez selon l'intelligibilité ultime et dernière de la réalité. C'est très différent. Et ceci, ça fait partie, je ne l'ai pas ici, mais c'est intéressant à noter, il faut que je le donnerai peut-être, facile à trouver du reste, dans les études que j'ai faites sur l'ens et l'essai chez saint Thomas. Alors, voyez toutes les significations de l'essai. Et vous voyez bien, toutes les significations de l'essai, vous trouvez parmi ces significations le fait d'exister et l'essai par le mode à tous ces samedis. C'est pas la même chose du tout. Ici, vous êtes au niveau métaphysique, et là, vous êtes au niveau de la constatation du jugement d'existence. Le jugement d'existence est pré-métaphysique. Je ne suis pas encore au niveau métaphysique. Tandis que là, je suis vraiment au niveau métaphysique, puisque j'ai saisi du principe propre de ce qui est en saisissant l'acte, selon la fin. Donc je suis au terme de ma métaphysique, du moins, au terme de, je ne suis pas au terme de la métaphysique, mais je suis devant quelque chose qui est ultime dans sa signification. Est-ce que vous voyez bien ça? Ça, c'est important à bien voir. Hein? Autrement dit, si vous voulez saisir toutes les significations propres de l'essai chez saint Thomas. L'essai peut signifier le fait d'exister, l'essai peut signifier l'exister. C'est pas la même chose. Le fait d'exister, exister. Parce que quand je dis exister, je dis premier mode de l'acte, donc ce qui actue. Ce qui actue d'une façon ultime. Ce qui actue d'une façon ultime, la substance. Voilà l'essai.
Bon. Vous comprenez tout ça. Il faut secouer de diverses façons pour arriver à découvrir. Mais c'est important de comprendre le fait d'exister, ceci est, et puis le point de vue ultime de l'acte comme principe selon la fin de ce qui est. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres? On peut avancer. Ça va? Alors, je vais vous donner ce matin les cinq modalités de l'acte. Ça, il faut les savoir. Hein. Avant de les comprendre, il faut les savoir. Il faut savoir ça, c'est partie de choses à comprendre. Bien alors, après, il faut essayer de les comprendre. Hein. Il faut les secouer dans tous les sens pour bien les comprendre. Alors, je vous disais, la ratio active. La raison d'acte. La raison d'acte, c'est-à-dire l'acte d'être pris et considéré en lui-même, dans ce qu'il a de plus pur. La raison d'acte, je la saisis de ces cinq manières. L'essai, le point de vue du bien, le point de vue du vrai, opération vitale, mouvement. Mais c'est une manière pour moi d'essayer de comprendre toute la richesse de l'acte. L'acte implique cela. Il implique l'essai. Quand je dis essai, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que l'acte est quelque chose de plus substantiel que la substance. Donc l'acte est plus substantiel que l'acte de la substance, parce qu'il est l'acte de la substance. Donc il est plus substantiel que la substance. Et ça, c'est très important de comprendre que l'acte est plus substantiel que la substance. Voilà ce que me dit l'essai. Il me fait découvrir dans l'acte quelque chose de radical et d'ultime. C'est normal. Hein? Plus on est ultime, plus on est radical. Pas politiquement. Mais philosophiquement parlant, alors ultime au point de vue dément, au point de vue fin, je ne peux pas aller au-delà. puis en même temps, c'est radical. Or, la substance se trouve comme le fondement. Donc, l'acte est plus substantiel que la substance. Le bien. Qu'est-ce que ça veut dire, le bien par rapport à l'acte? Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que l'acte, c'est vraiment ce qui donne à l'être toute sa capacité d'attirer. L'acte, normalement, sépare. C'est propre de l'acte de séparer. Et le propre de la forme, c'est de déterminer. Et le propre de l'acte, c'est de séparer. Très cru, ça. Séparer, vous voyez, c'est-à-dire donner à l'être son caractère propre d'être capable d'être pleinement lui-même. Oui. Quand vous n'êtes pas pleinement vous-même, vous avez besoin de vous appuyer. Oui. Eh bien, l'acte vous permet de ne plus vous appuyer. Donc, ça vous donne votre autonomie plénière. C'est ça le propre de l'acte. Quand vous n'êtes pas assez actué, vous vous appuyez sur quelqu'un. Vous êtes en référence. Vous voyez, il y a des gens qui sont tout le temps en référence. C'est pas seulement. On ne sait pas ce qu'ils ont dans l'estomac ou dans le cœur. Ils sont tout le temps en référence. Perpétuellement en référence. Parce qu'ils ne sont pas actes. Quelqu'un qui est acte est séparé. C'est extraordinaire, ça. Et on le sent très très bien. Il y a quelque chose qu'il faut saisir, là. L'acte sépare. Bon. Et l'acte, en même temps qu'il sépare, il donne cette capacité merveilleuse d'attirer. Oui, c'est une séparation de transcendance. Donc c'est une séparation de supériorité. L'acte sépare, mais il sépare non pas du tout, parce que justement, il a peur. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont peur, se séparent des autres. Alors ça, c'est le repli stratégique. Et le repli stratégique, ce n'est pas du tout l'acte. Oui, vous vous repliez sur vous-même dans une espèce d'inhibition, c'est juste l'inverse de l'acte. Juste l'inverse. L'acte, au contraire, c'est une séparation de transcendance. C'est-à-dire, l'acte attire. Il sépare et il attire. Quelqu'un qui est parfaitement actué, eh bien, il attire. Parce qu'il implique le bien. Le bien me fait comprendre la transcendance de l'acte. L'acte a quelque chose de transcendant et il est capable d'attirer. Le vrai me fait comprendre, oui, c'est pour saisir comment ces modalités me permettent de saisir toute la richesse de l'acte. Le vrai, c'est la lumière. Le vrai me fait comprendre comment l'acte est lumière. Alors là, ce serait très heideggerien, que l'acte est lumière, que l'acte est présence, c'est ça le vrai. Et c'est vrai, je peux le dire, je comprends bien ce que c'est, je peux très bien dire ça, que l'acte est lumière, c'est la potentialité qui est source de ténèbres. Parce que nous sommes des êtres en puissance, que nous sommes ténébreux. Tandis que quand on est en acte, on n'est plus du tout ténébreux. On est lumière. Et ça parce qu'il est vrai. La vérité est lumière. Le point de vue des opérations vitales, c'est le point de vue de l'exercice. Un exercice immanent. Quand je dis un exercice immanent, je veux dire un exercice de très grande intensité. L'immanence représentant l'intensité. L'intensité de l'opération vitale. Eh bien, l'acte donne cette intensité. Un acte n'est jamais dilué. C'est la puissance qui se dilue. On dit l'acte a le mot grec ténos que les stoïciens ont pris très fort. L'intensité d'un être. Et comme un ressort tendu. Ça, c'est très l'acte, un ressort tendu. Vous voyez, c'est ténos. Hein. L'intensité, enfin on dira, le conatus, la possibilité qu'il y a d'élan C'est pas l'élan, c'est, la c'est l'intensité qu'il y a dans un être, comme dans un ressort. Un ressort tendu juste avant, pas le moment où il se détend, hein, parce que ça serait l'exercice pur et simple. Mais c'est l'intensité qu'il y a dans le ressort. Il y a ça dans l'art. Opération vitale. Et alors le mouvement. Alors le mouvement, évidemment, qu'est-ce que le mouvement apporte? Qu'est-ce que le mouvement explicite sur l'acte? L'opération vitale implique un point de vue d'intensité parce que c'est l'immanence. Tandis que le mouvement n'implique pas cette immanence. Alors le mouvement, qu'est-ce que le mouvement peut bien nous dire de l'acte? Oui. Je vous pose la question. Qu'est-ce que le mouvement peut-il bien vous dire de l'acte? Vous allez me dire, c'est s'oppose, non? Le mouvement, c'est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc, le mouvement est acte, il manifeste l'acte. Mais il manifeste un acte très imparfait. Alors, ce que je voudrais chercher, c'est, vous voyez, ce qui, dans le mouvement, est justement cette participation de l'acte. Et une participation sui generis. Je ne peux pas dire que l'opération vitale remplace le mouvement, non. Il y a quelque chose de propre dans le mouvement qui n'est pas dans l'opération vitale. Il y a quelque chose de propre dans le mouvement qui n'est pas dans les autres modalités. Évidemment, c'est la dernière modalité. Donc c'est la modalité la moins acte, la plus imparfaite. C'est donc dans cette modalité où la manifestation de l'acte est la plus débile. Ça, c'est sûr. Je suis en face d'un acte très handicapé, hein, le mouvement, très 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 fort. Mais il y a quand même quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est que le mouvement exprime, manifeste de l'acte? Qu'est-ce que vous diriez? Vous pouvez vous déployer ça? Oui, parce que vous avez l'expérience du mouvement. Et maintenant vous savez ce que c'est que métaphysiquement l'acte. Vous n'avez qu'à faire le passage entre les murs. Qu'est-ce que c'est que le mouvement manifeste de l'acte? Et aujourd'hui, on a l'expression très ponctuelle. C'est-à-dire que le mouvement est une manifestation ponctuelle de l'acte. Hein? Justement, c'est mieux que ça. Oui.
L'être en puissance, ça peut réclamer ton acte?
Non, parce que dans le mouvement, la potentialité est antérieure à l'acte.
Pas du point de vue de l'espèce?
Pas du point de vue de l'espèce. Mais est-ce que c'est le point de vue de l'espèce que vous regardez là? Au point de vue de l'espèce, le mouvement montre quelque chose d'éternel. Alors est-ce que c'est quelque chose d'éternel que va montrer le mouvement? Le mouvement lutte contre la juxtaposition qui vient de la potentialité. Parce que ce qui est premier dans le mouvement, c'est la potentialité. C'est la puissance, c'est la potentialité qui est plus visible dans le mouvement. Et pourtant, il y a quelque chose dans le mouvement qui manifeste l'acte. Et qui, par le fait même, le fait mieux comprendre, c'est là où, d'une certaine manière, parce que le mouvement, on a tous expérience. C'est là où je saisis de la manière la plus grossière, mais pour moi, c'est la plus comme naturelle, où je saisis l'acte. C'est dans le mouvement que je saisis de la manière la plus comme naturelle ce que c'est que l'acte. C'est très curieux, et c'est intéressant, du reste. Parce que c'est intéressant pour comprendre justement comment le mouvement est un appel. Et je disais tout à l'heure, c'est très ponctuel, puisque le mouvement n'existe que dans l'instant présent. Il n'existe que dans l'instant présent, le mouvement. Et que c'est passé. Et puis l'avenir, donc il n'existe que dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous diriez?
On peut avoir ça par rapport à la matière, en montrant que ça montre que l'acte est au-delà de la matière. Parce que justement, le mouvement, c'est quand l'acte transforme la matière. Enfin,
transforme le sujet. Oui, le sujet, matéria prima.
Pas sur la matière.
La matéria prima. Mais la matéria prima, c'est la victoire, on pourrait dire ça, c'est la victoire de l'éternité sur le poids du temps. Sur matière. Elle est très intelligente.
Ça montre l'écart qu'il y a entre l'être et la nature.
Ah, c'est difficile, c'est pas commun. Hein. Oui, vous pourriez dire, vous voyez, c'est ce qu'on dirait, c'est que l'individu seul est mu, mais si l'individu est mu d'une manière continue dans le monde physique ou par le mouvement, je suis en face d'un devenir permanent, un devenir continuel, c'est comme un reflet d'éternité. Quelque chose d'éternel dans le mouvement, quelque chose d'éternel en raison même de ce mouvement continu, il n'y a pas de repos. Vous voyez ? L'acte n'est pas repos. L'acte est au-delà du repos, c'est bien, c'est pas le repos. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là où la raison d'acte va pouvoir être manifestée par le mouvement comme quelque chose d'éternel ? Oui. Parce que le mouvement lutte contre la succession du temps. C'est juste. Alors, il y a quelque chose d'éternel. Et c'est là où je me demande si au fond le mouvement n'est pas la manifestation de ce qu'il y a d'éternel dans la raison d'acte. Oui. On a besoin d'un plus petit que soi. Le tout petit dans le devenir, c'est la chose très curieuse du devenir. Et alors, je crois que ça rendrait compte, justement, le devenir dans l'individu permet la survie de l'espèce. Donc, l'éternité. L'espèce au-dessus. Parce que parmi le mouvement, c'est le mouvement de génération qui est le mouvement par excellence. Oui. Et ce mouvement de génération exprime donc la survie de l'espèce, donc quelque chose d'éternel. Il faut chercher, ça. Je vous dis ça à titre de recherche. Mais il y a sûrement quelque chose, vous voyez, c'est ça que je voudrais que vous compreniez. On a une peine énorme à découvrir, et à découvrir, mettre en acte. On a beaucoup de peine, ça c'est évident. Bon, dès que je découvre l'être en acte, je vois ces modes, ces cinq modes particuliers. Et une fois que j'ai découvert ces cinq modes, je vois que ces cinq modes me permettent de comprendre toute la richesse de l'acte. Donc, j'espère que vous voyez bien le double mouvement que nous faisons. Et ça, c'est très important. Oui. On voit comment, à partir de l'acte, tout de suite, il y a ces cinq modalités. Et une fois que j'ai découvert ces cinq modalités, je découvre que ces cinq modalités reflètent l'acte, réfléchissent l'acte, immédiatement, selon cinq modalités différentes. Oui.
Ça ne manifeste pas la perfection de l'acte.
La perfection.
L'éternel d'abord, mais ce ne serait pas la plus parfaite de la perfection.
Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus l'opération vitale qui montre la perfection ? C'est plus qualitatif. Le mouvement n'exprime pas la perfection, le mouvement est en dehors de la perfection.
Justement, vous démontrez qu'il y a un don de l'imperfection.
Oui. Un appel à la perfection, alors je dirais, comme un appel à la perfection. Comme il y a un appel à l'éternité, il y a un appel à la perfection. Oui.
Il y a un tir, mais le mouvement n'en-t-il pas la tendance mais...
Le mouvement attire, ça, le bien attire. Ça, c'est évident que c'est l'attraction, c'est l'attirance. Tandis que là, c'est pas ça, ça pousse.
Ce ne serait pas la réponse d'autres êtres à la tendance.
Ce qui est mu. Ce qui est mu, plus efficient. Hein. L'efficacité en mouvement, le travail à devenir. C'est vrai que le mouvement dans l'homme, c'est le travail. Il faut chercher. Je vous le donne parce que c'est important d'essayer de comprendre ce va-et-vient. Vous voyez ? C'est important de saisir ces cinq modalités de l'être. Et de les saisir à partir donc, de la distinction d'être en acte et de combien, et puis de saisir sa richesse. Bon. À partir de là, et ceci c'est pour vous montrer que la métaphysique, elle se fait tout le temps.
faut pas croire qu'elle est faite. C'est un petit peu le danger. On dit, on est à répéter peu.
Il y a à découvrir tout le temps. Parce que, au fond, ces cinq modalités de l'acte, si vous les cherchez dans la scolastique, vous ne les trouverez jamais. Pas du tout développé. Parce qu'on a très très peu développé la métaphysique de l'acte et de la puissance. Très très peu. C'est contenté de dire que ça existe, donc vous ne savez pas très bien exactement. Et la plupart, quand ils le répètent, on voit très bien qu'ils n'ont pas dépassé le point de vue d'Avicenne, c'est-à-dire pour regarder deux états différents de ce qui est. L'état d'imperfection, l'état de perfection. Alors à ce moment-là, ils ne saisissent pas vraiment l'acte comme fin. Et ne saisissant pas l'acte comme fin, ils ne peuvent pas saisir la ratio de tous et ses cinq modalités. Donc, une fois que j'ai fait cela, je réfléchis. Que me permet, au point de vue philosophique, de conclure de cette antériorité de l'acte sur la puissance? Je peux dire tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Vous êtes bien d'accord là-dessus? Tout ce qui est en puissance, j'ai regardé le point de vue de l'acte en puissance, puisque je vois que de fait, tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Vous êtes bien d'accord là-dessus. Et ceci, c'est tout simplement exprimer l'antériorité de l'acte sur la puissance. Or, quand je dis tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte, je suis en face de quoi? Dites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit? Le principe de finalité. Je suis en face du principe de finalité. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Vous pouvez m'expliquer comment je suis en face du principe de finalité? C'est vrai. Et ça qui est important. Donc, vous voyez tout de suite l'affirmation. Pour découvrir vraiment la finalité, et pour pouvoir justifier la finalité, comprendre ce que c'est que la finalité, il faut aller jusqu'à la métaphysique de l'être en acte et en puissance. Tant que je n'ai pas découvert la métaphysique de l'être en acte et en puissance, je reste devant une finalité anthropologique, relativement. Et donc, je ne saisis pas vraiment ce que c'est qu'une une finalité. Je dirais, à la manière de Don Scott, que la causalité finale, elle est métaphorique. Et je comprends très bien comment on dit ça. Si on ne saisit pas l'être en acte et en puissance, on arrive nécessairement à dire ça. Parce que quand vous dites que la finalité est uniquement au niveau de l'esprit, vous comprenez, c'est métaphorique. C'est votre esprit, c'est par rapport à votre esprit, c'est relativement à votre esprit. Donc c'est relativement à l'intentionnalité. C'est pas du tout relatif par rapport à la réalité. Donc la finalité est un projet et métaphorique, le principe de causalité. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre que l'antériorité de l'acte sur la puissance me permet de dire que tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Or, si je dis cette affirmation, je vois très bien que je suis en présence d'un principe de causalité et de causalité finale. Alors, justifiez ça un peu. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Je suis là en principe, j'explicite là le principe de causalité finale. Comment pouvez-vous expliciter ça et montrer ça? Là, je fais réfléchir, parce que je voudrais que vous sortiez ça, parce que c'est tellement important. Une fois dans sa vie, quand on a saisi le principe de finalité, on l'a pour toute sa vie. C'est extraordinaire. On est libéré du positivisme, on est libéré de toutes les idéologies. Si vous saisissez vraiment, hein, intellectuellement, pas si vous le répétez, hein, mais si vous le saisissez intellectuellement, c'est-à-dire si vous le pensez, tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte, vous ne pouvez plus accepter une idéologie. C'est terrible, hein, comme propagande contre les élections. C'est vrai, et vous ne pouvez plus être en dehors des idéologies. Tout ce qui est en puissance est ordonné ce qui est en acte. Alors montrez-moi ça. Vous avez dit finalité. Mais en fait, principe de finalité. Je suis tout à fait d'accord, principe de finalité. Mais là, il faut l'expliciter. Un peu. Qu'est-ce qui peut expliciter ça? Tout ce qui est en puissance. Tout ce qui est en puissance. Vous voyez, je dis tout ce qui est en puissance. Donc, toute réalité existante. Mais existence de cette manière particulière qu'elle est en puissance. Donc, elle est en attente d'autre chose, puisqu'elle est en puissance. Elle est en attente d'un acte. Tout ce qui est en puissance. Parce que la puissance est postérieure à l'acte. Donc tout ce qui est en puissance est ordonné, il est radicalement ordonné à ce qui est en acte. Parce qu'il est comme un appétit à l'égard de l'acte. Tout ce qui est en puissance est vraiment ordonné à cela parce qu'il a soif de l'acte. Il est un appétit de l'acte. Il ne peut être parfaitement lui-même que s'il est actué. Tout ce qui est en puissance, voyez, en vous, hein, il y a des choses qui sont en puissance. Eh bien, tout ce qui est en puissance en vous est ordonné à l'acte. Cherchez les domaines où vous êtes en puissance. Il y en a beaucoup, c'est pas la peine de les chercher longtemps, parce qu'on les découvre assez vite. Hein. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. C'est la façon la plus simple d'énoncer le principe de causalité finale. Parce que tout ce qui est en puissance, on voit tout ce qui existe en puissance. C'est ça qui est très curieux, ça existe en puissance. Alors c'est ordonné à l'acte. L'acte a un rôle d'attirer ce qui est en puissance. Et ça vous comprenez tout de suite. Alors, vous allez mieux le comprendre. Si ceci est vrai, au niveau des rapports entre acte et puissance. Comment maintenant pouvez-vous déterminer les cinq modalités pour me donner cinq modalités du principe de finalité? Vous avez cinq modalités de l'acte. Donc vous avez cinq antériorités de l'acte sur la puissance. Donc vous avez cinq manières d'exprimer le principe de causalité finale. Ça, c'est ça va de soi. Hein. Si vous avez accepté les cinq modalités de l'acte sur la puissance, si vous avez accepté ça nécessairement, vous pouvez maintenant me donner les cinq modalités du principe de causalité finale. Vous voyez comment on procède, hein? Alors, comment allez-vous énoncer, premièrement, on a dit l'essai. Alors, tout ce qui est en puissance, c'est ordonné à l'acte. L'acte ici, il faut toujours prendre par l'acte. Hein. La potentialité se comprend par l'acte, hein, n'oubliez pas. C'est pour ça qu'il faudrait l'énoncer en mettant l'acte en premier lieu. L'acte attire, l'acte actue. Tout ce qui est en puissance. Tout ce qui est en puissance, c'est ordonné à l'acte. Donc, alors, vous prenez du côté de l'essai. Vous avez l'acte, l'essai. Et la puissance ici, c'est la substance en puissance. Donc, c'est l'essence, comme on avait dit. Alors, Comment traduisez-vous ça? Principe de causalité finale au niveau du premier mode de l'acte. Pour que vous réfléchissiez un peu, c'est pour ça que je ne dis pas tout de suite. C'est tout de suite, là, avec la simplicité merveilleuse. Et vous allez vous redécouvrir vous-même. C'est tellement important de voir que le principe de causalité finale va tout de suite avoir cinq modalités. Invraisemblable, si vous voulez. Vous ne pouvez pas dire ça pour la substance. Absolument pas. Vous pouvez dire pour l'acte. Alors, vous voyez ce qu'il y a derrière. Hein. Vous voyez bien, j'espère. Hein. Ceux qui veulent avoir un coup d'œil magistral, ils ont par derrière les cinq voies de saint Thomas. Parce que ce n'est, nous allons voir après, ce n'est que par l'acte que je remonte, ce n'est que par la puissance que je remonte à l'acte. Ce n'est que la philosophie de l'acte et de la puissance qui me permet de remonter jusqu'au premier. Parce que nous avons vu ce matin que la substance ne me permettait pas de remonter jusqu'à Dieu. Parce que dans la substance, la distinction d'être et du devenir n'est pas assez nette. Ça ne permet pas. Alors c'est quand même très étonnant. Et croyez-le bien, hein. C'était pas parce que je voulais retrouver les cinq voies. Hein. Ce serait apologétique. Marquez que ça pourrait être. Hein. J'aurais pu partir d'une hypothèse de ça, les cinq voies de Saint-Thomas sont quelque chose de magistral. Ce qu'a fait le père Gérard Véronique. C'est quelque chose de magistral, les cinq voies de Saint-Thomas, donc ça doit contenir absolument toute la causalité. Et alors, le père Gérard, à la place de comprendre la causalité finale, prend la participation. Alors, les cinq modalités de participation, c'est ce que vous voulez. Tandis qu'ici, vous dites les cinq modalités du principe de causalité finale. Et c'est vrai que le principe de causalité finale va pouvoir s'exprimer selon les cinq aspects. Donc, tout ce qui est en puissance dans sa substance est ordonné à l'existence. Tout possible substantiel, tout essence, est ordonné à l'existence. Vis-à-vis de la fin, vis-à-vis du bien.
Ce que tout désire.
Ce que j'aime bien, c'est ce que tout désire. Oui, alors transformez-moi ça en principe de finalité. Le bien, c'est ce que tous désirent. Hein, Aristote. Le bien, c'est ce que tous désirent. Transformez-moi ça dans cette perspective que nous prenons maintenant. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. L'acte ici est le bien. La puissance ici, nous l'avons vu, c'est la volonté. Mais, donc, tout acte volontaire, tout appétit est ordonné au bien. Tout appétit est ordonné au bien. Point de vue 3, la vérité. C'est pour essayer de redécouvrir, vous voyez, nous répétons ces choses-là, nous ne voyons pas où ça se tient, comment ça se tient. Alors il n'y a plus aucune structure. C'est ce qui est terrible dans la scolastique habituellement, il y a des pièces, des morceaux et tout, on ne voit pas. Alors tout d'un coup, on vous sert sur un plat d'argent. Ou un peu là, on est cinq voies de Saint-Thomas. Ça nous est tombé du ciel. Et lui, vous dites, c'est très beau, c'est beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut être intéressant à voir. Alors, la vérité. Tout jugement est ordonné à la vérité. Pas tout appétit, là, c'est tout acte de connaissance est ordonné à la vérité. Net. Puis alors après, toute faculté vitale est ordonnée à son opération. Et tout corps physique est ordonné au mouvement. Vous avez donc les grandes modalités, les cinq grandes modalités de l'acte. Les cinq modalités du principe de finalité. C'est assez étonnant de voir ça. Moi, c'est assez bouleversant de voir ces cinq modalités, hein, quand on essaie de les comprendre. Je ne vois pas plus pour le moment. Hein. Je ne vois pas plus pour le moment. Mais je vois que j'ai toute une structure métaphysique de l'acte de la puissance, selon ces diverses modalités. Et elle s'exprime à travers le principe de causalité finale. Et à travers ce principe de causalité finale, je vois en effet que je découpe ces aspects-là. Alors ça me permet de comprendre les cinq grandes arêtes de ma philosophie. J'ai cinq arêtes. Des arêtes solides, elles sont métaphysiques. Hein. Donc c'est des arêtes qui sont bien, qui sont par rapport à notre monde physique, par rapport à moi-même qui suis engagé dans ce monde physique, je vois qu'il y a cinq arêtes qui me permettent d'énoncer, selon cinq modalités différents, le principe de causalité finale. Alors vous voyez, hein, quand le principe de causalité finale, on tombe dans l'anthropologie pour le faire dans une espèce de vision trop subjective sur le principe de finalité finale, sur le principe de causalité finale, il faut le reprendre de cette matière-là. Alors à ce moment-là, vous avez toute la richesse de ce principe de causalité finale qui se donne à vous selon ces cinq modalités. Ça, il faut y réfléchir là-dessus. C'est important, je vous dis. C'est toute la structure. Bon, une fois que j'ai fait ça, je me repose. Hein. C'est suffisant. Hein. C'est dire, bon, je vois ces cinq modalités et ces cinq modalités me montrent l'antériorité de l'acte sur la puissance. Et donc le caractère de dépendance dans l'ordre de l'être de tout ce qui est en puissance par rapport à l'acte. Je parle au fait même, je peux affirmer que tout être qui est en puissance est toujours seconde. La potentialité du côté de l'exister est seconde. Donc toute potentialité qui sont en moi me met dans un rang d'infériorité par rapport à l'être. Seul l'acte est premier dans l'ordre de l'être. L'acte est premier. Si la puissance reprend dessus, c'est uniquement au niveau du devenir. Mais ce n'est pas au niveau de l'acte. Au niveau de l'acte, donc, l'acte est premier. Pas au niveau de l'être, je veux dire. Au niveau de l'être, l'acte est premier. Une fois que j'ai fait ça, d'une certaine manière, vous voyez, j'ai terminé la grande métaphysique de l'être, de l'acte de la puissance. C'est très court, mais c'est très dense. Vous voyez, la richesse beaucoup plus grande que la métaphysique de la substance. Je peux me poser maintenant la question, pour mieux comprendre, cette ratio avec tous, nous avons essayé de saisir toute la richesse. Quel est son caractère propre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de séparer. C'est vrai. L'acte sépare alors que la forme détermine. La forme est dans l'immanence. Donc la forme détermine. Tandis que l'acte ne détermine pas. Il sépare. Il sépare pour rendre indépendant. L'acte me rend indépendant. Plus je suis actué, plus je suis indépendant. C'est la souveraine indépendance que donne la métaphysique. Si la métaphysique actue mon intelligence, je deviens souverainement indépendant. Ça c'est sûr. Elle augmente mon indépendance. Mais une véritable indépendance. Plus je suis en puissance, plus je suis dépendant. Toute la potentialité qui est en moi me maintient dans la dépendance. Oui. Et là, ça fait comprendre tous les systèmes politiques. Maintenir dans la dépendance. Maintenir dans la dépendance. C'est donc maintenir dans la confusion. L'amalgame. Maintenir dans la confusion. Plus vous maintenez dans la confusion, plus vous maintenez dans la potentialité, plus vous maintenez dans cette dépendance. Alors que quand vous actuez quelqu'un, alors que vous lui donnez le sens de sa finalité, vous le rendez indépendant. L'acte sépare. Alors ça, il faut réfléchir beaucoup. L'acte sépare. Il donne à chacun son indépendance, son autarcie, pour employer le mot grec, hein, son autarcie. Et son autarcie, c'est justement son indépendance. Mais c'est beaucoup plus que l'autonomie, hein, l'autarcie. L'autonomie, ça, c'est psychologique. L'autarcie, c'est quelque chose de beaucoup plus radical. C'est la cause de toute autonomie. L'autarcie, on est séparé. On n'a plus peur d'être séparé. On n'a plus peur d'être seul parce qu'on est finalisé. Vous avez peur d'être seul quand vous n'êtes pas finalisé. Quand vous êtes en puissance, vous avez une frousse intense d'être seul. Parce que vous êtes dépendant de n'importe quoi. Tandis que dès que vous êtes actué, vous êtes indépendant. Vous avez une autarcie parfaite. Bon, on va s'arrêter quelques minutes.